dans la prophétie, la Torah est comparée à l'eau. Et donc, dès que nous avons, dans les paroles d'un prophète, l'apparition de l'eau, il y a une référence à la Torah qui doit apparaître. Tout simplement parce que le prophète reçoit sa prophétie avec des images, et donc il doit utiliser sa force imaginative, ce qu'on appelle en hébreu « koach hamedame », afin de pouvoir faire des rapprochements. Les damot, ça vient du mot aussi domé, donc ceci ressemble à cela. Et grâce à ces rapprochements, on peut comprendre une idée par rapport à un autre message et faire les liens. Vena'u ma'im adiyam, donc les eaux vont se propager, vont circuler, vont avancer jusqu'à l'océan, ou mitzafon ad mizrach, et du nord, les eaux vont descendre vers l'est. Yeshotetu, levakesh et dvar Hashem, velo imtsau. Tout ceci pour demander la parole d'Hashem sans pouvoir la trouver. Il y a ici donc une référence à la demande d'étudier la Torah, à la quête d'une Torah à la fin des temps, et les gens vont avoir soif de cette Torah-là, et il va falloir trouver cette Torah, chose qui n'est apparemment pas facile, parce que la Torah, c'est pas seulement étudier n'importe où, mais c'est étudier une Torah qui correspond en réalité à ce que nous vivons. Autrement dit, la Torah est une prophétie. Et si elle ne l'était pas, elle aurait été quelque chose de subjectif, donc forcément, quelque chose qui correspond à chacun, selon ce que lui est en train de dire. Donc il n'y aurait pas eu de vérité, chacun aurait dit, c'est moi qui ai raison. Il nous faut donc quelque chose, un élément qui nous vient de l'au-delà, pour faire le lien entre nous. Il nous faut quelque chose d'objectif. La seule chose objective de ce monde, c'est la Torah. C'est donc Akadosh Baruch Hu, de son infinité, qui descend dans le monde subjectif dans lequel nous sommes. Et c'est l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, l'objectivité divine, la vérité absolue, qui descend dans ce monde aléatoire, dans ce monde où il y a des changements, où chacun pense qu'il a raison. Qui va pouvoir dévoiler donc cette vérité? L'ensemble des façons de voir. Bien entendu, je dois, moi, en tant qu'individu, avoir ma manière de voir et la défendre. Je ne peux pas concevoir avoir plusieurs directions dans la tête. Je dois avoir une direction qui m'est propre, qui représente ma structure personnelle. Mais, en aucun cas, je dois annuler les autres visions. Je dois me battre s'il le faut. Milchamta shel Torah, une guerre de Torah contre une autre vision, mais je ne dois pas penser qu'elle n'est pas légitime. À condition que toutes les facettes du judaïsme aillent dans la même direction, c'est-à-dire de dévoiler la vie. Dévoiler la vie, dévoiler à Kadosh Baruch Hu la Havaya, l'être vivant, qui fait vivre de son infinité toutes les formes de vie de ce monde. Ceux qui sont contre la vie, qui vont contre la vie, ceux-là ne sont pas légitimes. Tout le reste, okay, sont légitimes. Malgré tout, je reviens à ce que j'ai dit, la Torah est donc l'élément objectif qui vient de l'au-delà, donc ça s'appelle Nevoa. Donc la Torah est une Nevoa. Or, la Torah n'écrit pas tout ce qui s'est passé. La Torah écrit, retient seulement certains épisodes. Pourquoi? Il y a une règle qui dit « Nevoa sheutzrecha ledorot nechteva ». seulement une prophétie qui peut se réaliser à toutes les générations, elle a été retenue. Donc si un prophète a reçu une prophétie momentanée, ponctuelle, cette prophétie-là ne rentrera pas dans l'histoire du Tanakh. Moralité, tout ce qui est écrit dans le Tanakh, c'est quelque chose qui se représente, qui a une valeur même dans le temps actuel, car il est valable à tous les temps. C'est ça le propre de la prophétie, c'est qu'elle est valable à tous les temps. Si elle n'était valable qu'à un seul temps, que pour un seul temps, elle n'aurait pas été écrite. Ce qui fait que lorsque vous allez ouvrir votre livre de Shemot cette semaine, vous devez savoir que c'est une prophétie qui est devant vos yeux. Autrement dit, un élément qui est en train de vous parler aujourd'hui. Donc ce n'est pas une histoire historique passée et dépassée, c'est une histoire actuelle qui vous correspond aujourd'hui. Et si vous ne savez pas lire cette Torah, vous allez la lire comme une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans. Qu'un jour, les enfants d'Israël sont descendus en Égypte et qu'un jour, ils en sont sortis. Mais où est-ce que cette histoire va vous rencontrer à vous ? Chas v'shalom, nulle part, si vous ne savez pas lire cette Torah. Donc la Torah ne doit pas rester à son niveau historique, mais c'est en réalité une prophétie qui vous correspond et qui vous concerne, qui s'adresse à vous aujourd'hui même. Pour être plus clair, je dois trouver donc dans la paracha de Shemot la compréhension de ce que représente l'exil aujourd'hui dans ma vie et au niveau individuel et bien entendu avant tout au niveau de mon collectif Israël. Et je dois trouver tous les acteurs qui sont dans cette paracha, c'est-à-dire Paro, Moshe, les enfants d'Israël, et savoir que ces acteurs sont à l'intérieur de moi. Si je n'ai pas compris où est le Paro qui est en moi, où est le Moshe qui est en moi, où sont les enfants d'Israël qui sont en moi, où se trouve l'Égypte dans ma vie, et où se trouve Akadosh Baruch Hu qui va rencontrer Moshe qui est en moi pour lui dire « Je te ferai sortir et je t'amènerai sur la terre », eh bien la Torah restera pour moi un livre d'histoire. Et je serai, chas v'shalom, rentré vide à la synagogue et je sortirai, chas v'shalom, vide. Comme dit Rabbi Shimon bar Yochai, alav shalom, la plupart des gens rentrent vides et sortent vides de la synagogue. Pourquoi ? Parce qu'ils lisent la Torah comme une histoire du passé, qu'ils ne comprennent pas que cette histoire est en train de leur parler au présent, aujourd'hui. Donc nous ne voulons pas faire cette erreur. Nous voulons appliquer la quatrième question qu'on va nous poser jusqu'à 120 ans lorsqu'on sera présenté devant le tribunal céleste. Si Pita Lichois, est-ce que tu as entrevu dans ta propre vie à toi toute l'histoire de la Torah et comment Akadosh Baruch Hu se dévoile au monde? Est-ce que tu as lu, autrement dit, la Torah comme un livre dépassé, historique, peut-être archaïque, ancien, qui n'est plus à l'ordre du jour? Ou est-ce que tu as compris la Torah à ton époque, selon les critères de ton époque? Il faut juste traduire les acteurs en éléments réels de ta vie d'aujourd'hui. Donc où est le même acteur dans ma vie? Où se trouve aujourd'hui le paro dans ma vie? Et quels sont les dangers de l'apparition d'un tel paro dans mon être? Et comment je dois sortir de ce pharaonisme? Comment je dois sortir de cette Égypte grâce aux retrouvailles avec mon propre Moshe et ma propre identité? Comment je dois rentrer dans un degré d'exil éparpillé en 70 membres et sortir de cet exil en tant qu'une unité organique qui s'appelle la nation d'Israël? C'est-à-dire transformer mon éparpillement en unité. Comment est-ce que je peux jouer ce rôle dans ma propre vie? Comment je peux appliquer ce code cosmique que la Torah m'indique dans ma vie actuelle? Et Dvar Hashem, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu qu'on aura du mal à trouver? C'est Halakha. Dvar Hashem zo Halakha, c'est-à-dire comment véhiculer, vivre réellement les choses pratiquement dans ma vie de tous les jours. Halakha vient du mot l'alechet, c'est-à-dire comment marcher dans les préceptes de Dieu. Où m'arrêter dans cette démarche? Je marche, mais où est-ce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu s'arrête? Arrêter la démarche, ça s'appelle psak halakha. Comment je peux être posek halakha? Comment je peux être dans l'arrêt d'un certain mouvement de vie? Comment je vais faire en sorte de comprendre, dans le détail près, ce que l'infini béni soit-il a prévu que je vive dans un monde limité, mesuré? Comment est-ce possible que l'infini arrive dans le monde fini et que je décode tout cet infini dans une forme d'action qui s'appelle une mitzvah? Ce sont des choses qui sont extraordinairement difficiles et que les sages, avec leur grande sagesse, doivent arriver à stopper l'écoulement divin, entre guillemets, à un moment donné, pour me permettre à moi de vivre une certaine qualité de vie selon ce précepte précis qui s'appelle la halakha en question. Donc le psak halakha. Dvar Hashem zeaketz. Les chachamim nous disent donc ici une proposition de quelques directions. Que veut dire Dvar Hashem velo imtsaou? On a du mal à trouver, on aura du mal à trouver Dvar Hashem. Donc la première proposition de nos sages, c'est Dvar Hashem, c'est halakha. On aura du mal à trouver le sens dans lequel développer notre vie au niveau ilkhati. Deuxième proposition des sages, Dvar Hashem zehaketz, on aura du mal à comprendre tout ce qui concerne la fin des temps. Okay? Donc nous sommes dans cette époque-là. Les gens se posent des questions, comment appliquer tel et tel halakha, puisque apparemment c'est très complexe. Et comment comprendre toute la notion de la fin des temps, du bout, de la notion de temps. Ketz, katsé, le coin du monde, le coin de la vie, le coin de l'histoire humaine. Où arrive le bout de l'histoire humaine? La pointe. Dvar Hashem, zone et voie. Troisième proposition. Slicha. Ketz. Ketz, ketz. Nachon. Ketz katsé, qui veut dire une pointe, comme un coin de table, ktsé hashulchan. Tout simplement parce que il n'y a pas de fin. La fin n'existe pas. Car ce qui se trouve devant nous, c'est l'infini. Donc à partir du moment où l'infini se trouve devant moi, il n'y a pas de fin. Il y a tout simplement, tous les jours, un travail de ma part de concevoir, d'accepter, d'intégrer un petit peu plus de l'infini qui se trouve face à moi, devant moi. C'est ça le secret. Je ne suis pas limité dans mon avancée. Je suis en réalité dans la perfectibilité, si je pouvais inventer un mot. Mais je ne serai jamais dans la perfection. Car la perfection, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et moi, je suis dans un processus qu'appelle le Rav Kook, Behishtalmut, et non jamais Bashlemut. Donc en face de moi, face à moi, devant moi, j'ai l'infini. Donc j'essaye d'absorber des éléments, des tranches d'infini. Mais j'ai toujours l'infini devant moi. L'infini n'est pas limité. Donc je suis tout le temps Holech Vatov. Je vais en me bonifiant, en devenant de plus en plus divin dans ce monde, sans jamais y parvenir, totalement. Donc on ne va jamais vous poser la question « Pourquoi tu n'as pas réussi à faire telle et telle chose ?» mais plutôt « Pourquoi tu n'as pas essayé de le faire ?» Donc je suis là pour vous soulager, vous ne serez jamais parfait, donc inutile d'être perfectionniste, mais il faut toujours aller vers la perfection, en sachant que vous jamais vous allez être parfait. Donc ça vous rassure, ça vous soulage. Même si vous faites des choses imparfaites, c'est normal, vous êtes des hommes. Quelqu'un qui voudrait devenir parfait, c'est un petit peu de l'orgueil, ou beaucoup d'orgueil. C'est vouloir en fait être lui, béni soit-il. Or, je ne serai jamais lui. Lui reste le créateur et moi le créé. Donc je ne pourrai jamais devenir lui. Mais je dois tendre à me remplir de plus en plus, à me bonifier, à me compléter. Donc je suis dans un processus toute ma vie. Et même le messianisme est un processus. Donc si on vous a enseigné jusqu'à maintenant que le messianisme est une date, c'est un problème. Le messianisme est une graduation de dévoilement. Et chaque instant qui passe, j'ai avalé un élément du messianisme d'Israël. Et je dois vivre chaque heure de ma vie avec cette vision-là, d'une heure que je viens d'avaler dans le processus messianique qui va et avance au fur et à mesure du temps qui passe. Donc si on vous pose la question, est-ce qu'il y a eu une Géoula l'heure passée? La réponse est oui. Il y a eu une Géoula correspondante à l'heure qui vient de passer. Donc l'heure qui vient de passer s'est remplie d'un pas de plus dans le processus global de la Géoula. Donc chaque instant de ma vie, c'est en réalité encore un pas dans ce processus. Ce qu'on appelle en hébreu « chevle mashiach », les cordes messianiques, c'est-à-dire que je vais en tirant une corde, qui cette corde-là va jusqu'à l'infini, et moi à chaque fois je gagne un centimètre dans cette corde, je la tire vers moi, et donc j'ai gagné encore 20 centimètres, 30 centimètres de cette corde infinie, et tous les centimètres qui sont déjà dans mon domaine, ce sont déjà des acquisitions qui font partie du messianisme lui-même. Ken.
On dit que le monde est à 6
ans. Ken. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui au niveau de notre compréhension à 6000 ans. Mais après, Ken, c'est la méthode à 6000. Ken. Après la méthode à 6000, il y a une méthode à 7000. Et il y a une méthode à 8000. Et il y a une méthode à 9000, Ken. Seulement le monde va changer de structure au niveau du temps et de l'espace tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais au fur et à mesure. Donc ce sont des choses qu'on ne comprend même pas. Inutile donc d'en parler. Ken.
On parle du Mashiach de la Géoula, ça veut dire que ça arrivera à la fin de ces 6000 ans.
La Géoula, on y est. On est déjà en plein dedans. Quand les gens parlent de la Géoula, et encore une fois, c'est une image, ne voit que l'homme, Mashiach. Alors que la Géoula est un processus même avant que l'homme n'apparaisse. Ça veut dire que si je ne considère pas que je suis déjà dans un processus de Géoula avant que l'homme, Mashiach, n'apparaisse, ça veut dire qu'en réalité j'ai raté toutes les étapes qui ont précédé l'apparition de cet homme. Et donc, je ne considère pas que la Géoula a déjà commencé, j'attends l'homme. Quelqu'un qui attendrait l'homme, même lorsque l'homme va arriver, va être déçu. Parce que le lendemain de son apparition, le temps va continuer. Donc il va se dire, donc maintenant il est déjà arrivé, alors c'est fini. J'ai plus rien à attendre. Si j'ai plus rien à attendre, je suis dans la dépression. Mais quelqu'un qui sait que l'apparition de l'homme Mashiach, c'est encore une des étapes, certes une étape très importante, mais une étape, et non pas la fin. Mais lui comprend que, après cette étape, il y a eu une autre étape. Et il y a eu une autre étape. Et il y a eu une autre étape.
C'est-à-dire que le monde
est infini. Le monde a été créé par l'infini, donc l'homme peut se remplir de l'infinité. Et donc l'homme n'est pas limité comme un animal au niveau de ses instincts, c'est-à-dire n'est pas bloqué, n'est pas statique. Une vache, c'est une vache du premier jour jusqu'au dernier jour de sa vie. Une fleur, c'est une fleur du premier jour jusqu'au dernier jour de sa vie. Un homme, non. L'homme, c'est le seul à avoir le libre arbitre. Pourquoi ? Parce que c'est le seul à pouvoir avancer de plus en plus. Donc à chaque fois qu'il avance, il s'appelle Mehaler, le marcheur. Dès qu'il fait un pas de plus, il a en réalité absorbé un degré de plus de l'infini qui se trouve devant lui. Clair ? Ok. Kol megamatam ve shi'ifatam ve adir chefzam hu ach limtzoh et dvar Hashem. Vous m'avez un petit peu coupé avant que je ne termine la phrase précédente. Donc la Gemara, donc le traité de Shabbat à la page 138, a traduit donc cette soif et a proposé trois degrés qui correspondent au Dvar Hashem. Premier degré, première proposition de la Gemara, c'est que Dvar Hashem, c'est la halakha. Donc on aura du mal avec la halakha et on voudra acquérir les degrés pour savoir comment vivre dans notre monde, selon les préceptes de Dieu. Deuxième degré de Dvar Hashem, c'est... Non. Haketz. L'extrémité. Bien. On aura aussi du mal à comprendre cette notion. Troisième degré, Nevoah. On aura du mal avec cette notion de Nevoah, de prophétie, mais c'est ce qu'on voudra atteindre et c'est ce qu'on devra atteindre. Si on vous demande qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grand, répondez prophète. D'accord ? Et non pas pompier. Quel ? Prophète. Kol megamatam ve sheifatam ve adir cheftam. Donc tout notre but, le plus profond de notre désir, hu ach limtzoh et dvar Hashem hamale bekol hanpin hanehirim. C'est de trouver en fait ce dvar Hashem. Ce qu'on a donc traduit par Dvar Hashem, donc Halakha, Ketz et Nevoah. D'accord ? Eh bien, tout ceci, c'est ce que nous devons chercher à la fin des temps. Dvar Hashem zo Halakha, Shebekol yeme chayehem lekol zmanehem, Shav'atehem verig'ehem, Sh'otehem vedirig'ehem, בכל מהלכי אורחותיהם ובכל מדרך כף רגליהם בכל שעל ושעל ובכל צעד וצעד יהיו כולם מוקפים מבית ומחוץ בהלכה של תורה. Le Rav ici donc dévoile et développe ce qu'il est en train de dire, inutile de traduire mot à mot, mais je vous le dis d'une manière générale, c'est-à-dire dans chaque pas de ta vie, dans chaque heure de ta vie, dans chaque mouvement de ta vie, dans chaque partie de ton être, que tu voudras arriver, être entouré et être imprégné, donc du dedans et autour de toi, de cette halakha de Torah. C'est-à-dire de la façon dont la volonté du Créateur se dévoile dans ce monde. Comment je peux, par mes actes, par l'application des mitzvot, réaliser la volonté du Créateur. Et cette volonté qui est Torah Chaim, Torah Elohim Chaim, c'est une Torah du Dieu vivant. C'est-à-dire comment amener plus de vie dans ce monde. Il faut comprendre donc que l'application des mitzvot, ce n'est pas des actes vides. Ce sont en réalité des actes qui amènent avec eux, quand je les fais, quand je les réalise, plus de vie. Comprenez ? Quand j'applique une mitzvah, je fais en sorte que la vie circule de plus en plus. Donc je fais circuler par moi la vie. Maintenant, je suis en train de réaliser une mitzvah d'étudier la Torah, et vous aussi. Nous sommes en train de vivre plus que dans la demi-heure qui précède si on n'avait pas étudié. Pourquoi ? Parce que la mitzvah véhicule à l'intérieur d'elle l'ordonneur de la mitzvah, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc l'infini béni soit-il traverse la mitzvah que je réalise, en l'occurrence dans mon étude, pour faire véhiculer l'infini à travers mon acte, ma pensée, mon imagination, tout mon être qui est là maintenant en train d'étudier cette Torah.
Il y a des mitzvot qui ne disent pas qu'on va monter en Israël, habiter en Israël.
Quelles ? Qu'est-ce qu'elles ont ?
Elles sont indiquées,
ça dépend selon qui.
Ça dépend selon qui.
Bien fait. Donc si tu prends un homme qui...
C'est noir, c'est-à-dire on va, comme il a dit ça, alors je vais faire...
Donc il y a une direction de pensée que tu dois te choisir dans la vie, et savoir selon qui Okay, tu marches selon qui tu avances. Si c'est selon la Kabbalah, les kabbalistes nous ont dit donc qu'il y a une mitzvah de venir habiter en Israël de toutes les époques. En l'occurrence, le Ramban. Bien fait. Donc le dernier des grands kabbalistes de ce monde. Selon la Kabbalah, qui est en réalité la neshama de la Torah, la profondeur de la Torah, okay, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël ne fait même pas de doute. Et tu ne peux même pas te réaliser en dehors de ça. Et donc, selon ta direction, okay, tu dois être certain, dans la certitude de la vie que tu mènes. Et non pas avancer avec un doute à chaque instant. Ouais, mais il y a d'autres qui pensent autrement.
Non, bien sûr, non, mais...
Je sais qu'il y a d'autres qui pensent autrement. Peu importe, peu importe. Il faut que tu te trouves. La mitzvah n'est jamais klali. Elle est klali au niveau de l'idée. La Torah raconte et dit que le peuple d'Israël doit rentrer sur la terre. Oui, ça, tout le monde l'accepte. D'accord ? Sinon, la Torah aurait dû se terminer dans le livre de Shemot à la page paracha de Yitro. Le jour du don de la Torah, on arrête l'histoire. Puisqu'on a une Torah. C'est fini. On a reçu la Torah. On a Moshe Rabbeinu. On a tout ce qu'il faut pour l'éducation de nos enfants. On a à manger, à boire et des vêtements. On n'a plus besoin de rien. Or, tu vois que la Torah continue. Parfait. Donc, l'histoire de la Torah est claire. Et comme j'ai dit tout à l'heure que l'histoire de la Torah est une prophétie chez Utsrecha les Dorot, qui incombe à toutes les générations, ça veut dire que je dois tout simplement suivre et imiter ce qui s'est passé dans l'histoire de mes pères. Maase avot siman labanim. Donc je dois vivre dans cette certitude et arrêter de me poser des questions à chaque instant. Okay? Pourquoi d'autres ne font pas comme ça? Et sinon tu ne peux pas vivre réellement et réaliser et te réaliser. Donc pour moi il ne fait aucun doute que c'est la direction de vie. Maintenant, dans cette Torah de vie que j'ai choisi déjà, je dois me réaliser pleinement, c'est-à-dire être sans arrêt dans le rajout d'éléments de vie sur la terre de la vie, Eretz Chaim, qui est Eretz Israël. Et donc, moralité, je dois savoir comment vivre avec cette Torah de vie. Donc je véhicule à travers mes actes le divin. Donc il y a plus de divin sur terre. À chaque fois que je réalise une mitzvah, il y a plus de divin sur terre. On ne va pas le mesurer en kilos, mais imaginez-vous qu'à chaque fois que vous faites une mitzvah, il y a un kilo de divin en plus dans le monde. Donc vous remplissez le panier de l'univers de la lumière divine qui s'est cachée lors de la contraction première qui a eu lieu avant la création du monde, que les kabbalistes appellent le tzimtzum. Lorsque le créateur du monde a fait ce tzimtzum, cette contraction, c'est-à-dire qu'il a cacher la lumière, cacher sa lumière, eh bien, cette lumière revient dans ce panier vide qui s'appelle le Halal HaPanoui, donc un élément vide, panoui vide, libre, disponible. Halal panoui. Donc ça veut dire qu'il y a un élément qui est manque de lumière. Et tout doucement, la lumière repénètre, pénètre à nouveau, sous forme d'un cave, sous forme d'une droite, c'est-à-dire d'un yosher, c'est-à-dire d'éléments de vie infinis, structurés, car le yosher indique trois directions, yamin, smol et emtsa, mala vemata, il y a un haut, il y a un bas, il y a une droite, il y a une gauche, il y a une centralité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Dmout Adam, en forme d'homme, en forme humaine, car nous sommes formés à l'image de ce cave. Et ce cave est en train de pénétrer et rentre dans ce grand ballon vide pour ramener la vie. Et moi, au niveau créature qui suis dans ce grand ballon, à chaque fois que je fais une mitzvah, j'accélère l'arrivée de la lumière qui vient de l'infini, qui entoure ce ballon, et qui rentre et qui pénètre cette lumière, et qui remplit en réalité ce ballon de plus en plus de lumière. Et dès que cette lumière remplira ce grand vide du départ, eh bien, la terre se remplira de la connaissance de Dieu. Kamaim la yam mechassim, comme l'eau recouvre l'océan. Et c'est ce que nous devons faire. Donc à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on se relie à ce kav de Yosher. Donc on se relie à la morale divine, aux valeurs divines, à cette droite, qui a donc une direction, Yashar, El, Israël. Et donc je fais une mitzvah en m'attachant à Israël. Donc je fais la mitzvah Beshem, au nom de Kol Israël, et pas au niveau individuel. Je n'ai pas de mitzvot individuelles, ça n'existe pas. Okay, nous avons tous la mitzvah de mettre les tefillin. Individuellement parlant, nous avons juste une façon de les mettre différente. Et moi, je les attache comme ça, et toi, tu les attaches comme ça. Peu importe. Okay, tu as le droit. On te donne une certaine liberté dans ta manière de les faire. Et dans ta manière de les acheter, et dans ta manière de les choisir. Ou est-ce que tu veux peindre ton... Okay, ta lanière de noir et dehors et dedans, ou qu'elle soit juste noire dehors et blanche dedans, et tu peux faire ce que tu veux. Mais la mitzvah, c'est la même mitzvah pour tout le monde. C'est les mêmes lettres qui sont écrites, mais ce sont des sofrim différents qui les ont écrites. Donc il y a une certaine souplesse, tout en étant dans la rigidité. Donc tu es rigide au niveau divin, mais tu as pris une souplesse au niveau de l'application. Et chacun va appliquer cette mitzvah différemment. Et quand elles seront sur toi, cette filine, eh bien, tu auras une kavana ou moins de kavana. Tu vas t'endormir ou moins t'endormir. Tu vas faire ta tefila avec beaucoup plus d'insistance ou comme quelqu'un qui met ça par habitude. Et donc, c'est à toi de gérer tout ça. Mais la mitzvah, elle incombe la nation. Donc, le yosher, ce fameux trait de lumière qui pénètre le tzimtzum, la contraction, remplit de plus en plus le monde, comme si avec un tuyau, on remplissait ce monde de lumière divine. Et donc nous sommes associés, et c'est en cela que nous sommes avec l'infini devant nous, que je vous ai dit tout à l'heure, qu'à chaque pas que je fais, j'amène un petit peu plus de l'infini. Combien je peux amener? L'infini. Donc j'avance vers l'infini, tout en sachant que ce n'est pas à moi de tout terminer, parce que je ne peux pas. Lo alecha hamelacha ligmor. Donc on ne te demande pas pourquoi tu n'as pas fait telle et telle chose, mais on va te demander pourquoi tu ne t'es pas efforcé de faire. D'accord? On ne vous demandera jamais de terminer quelque chose. Mais est-ce que tu es déjà dans le train? Est-ce que tu es rentré déjà dans le mouvement? Donc, c'est ce qu'on appelle Elohim Chaim. Ha'alacha, ken tihye brura, blishum sfekot. Donc, nos démarches, je vais traduire volontairement halacha comme démarche. Donc j'ai choisi le mot halicha, et non pas ma manière d'appliquer les mitzvot. C'est la même racine. Okay? Ça veut dire que ma halacha, donc ma démarche de vie, va devenir de plus en plus claire, de plus en plus précise, de plus en plus loin des doutes. C'est-à-dire que je vais vivre pleinement ce que je suis. Je vais arrêter d'imiter les autres. Je vais arrêter de tâtonner dans le noir. Je vais être certain de ma vie et de mes actes. Comme quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie à faire un trait. Imaginez-vous un artiste qui pendant toute sa vie s'est entraîné à faire un trait. Eh bien, son trait devient sûr. Parmi des milliers de possibilités, il choisit le trait qui est le trait exact. Pourquoi? Parce qu'il s'est entraîné. Entraîné en hébreu, emuna. Donc, ou hit amen, il s'est entraîné. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné de plus en plus à réaliser le divin. Donc, ses actes deviennent de plus en plus précis. Sa parole devient de plus en plus précise. Il ne bégaye pas quand il parle. Et quand il veut faire passer un message, son message est net, clair et précis. Il n'a pas besoin de rajouter des mots tout autour pour embellir, pour habiller. Ses paroles sont assez claires pour faire passer son message à ses élèves. Et donc il n'y a plus de safek. Donc de là maintenant vous comprenez ce que représente le mot safek, qui est en réalité des arrêts, interminable. Safek veut dire s'arrêter aussi. Donc c'est la même chose que psak à l'envers. Donc tu ne sais plus réaliser la chose, tu restes dans le doute, donc tu es paralysé. C'est la même racine, mais c'est l'inverse. D'accord? Vegam, Dvar Hashem, Zonevoa. Donc, moralité, Dvar Hashem, la parole de Dieu. L'expression ex veut dire dehors. Pression. Le dehors de la pensée divine, on va dire comme ça. Eh bien, c'est la névoie. On est d'accord. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut exprimer son être et ses actions aux hommes. Il choisit un médium, un prophète, par lequel il va faire passer son message. Et il va lui venir en prophétie, ou dans un rêve, ou dans un autre style de prophétie, jusqu'à le sommet de la prophétie, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Et donc, la certitude va être de plus en plus claire dans le monde. C'est-à-dire, dans un monde où un Moshe existe, la certitude est excellente. C'est-à-dire, le captage de l'émission de radio divine est très clair. Sans quoi ? Sans parasite. D'accord ? Et je vous ai dit tout à l'heure que Moshe n'est pas un être extérieur à vous, mais un être qui se trouve à l'intérieur de vous. Sous-entendu, lorsque vous trouverez votre Moshe, vous allez devenir de plus en plus certain de ce que vous faites. C'est tout. Cherchez votre Moshe. Moshe se trouve où ? Dans les eaux. C'est-à-dire, il se trouve dans ta Torah. Et il se trouve dans une petite boîte qu'on appelle la Teva. Or, en hébreu, Teva veut dire un mot, Rachet Tevot, les initiales. Donc, Teva veut dire un mot, en hébreu, comme Mila. C'est la même chose. Teva veut dire un mot. Donc, Moshe se trouve dans les mots. C'est-à-dire que Moshe se cache dans les mots. Autrement dit, Moshe se cache dans les noms de la Torah. C'est pour ça que Moshe est lui-même un nom. Moshe, inverser les lettres, c'est Hashem, donc le nom. Donc Moshe se cache dans les textes de la Torah. C'est pas comme des si tu lis l'histoire au premier degré, tu vas être toujours comme Blanche-Neige et les sept nains. Tu vas t'imaginer un petit Nil. Et Moshe avec des cheveux blancs, une belle barbe qui monte et qui entend des voix. Moïse. Et quand il va rentrer en bas, alors il y a sa femme et l'autre qui vont dire il a vu l'Éternel. C'est sympa, un beau film. Okay. Mais la Torah, elle vient t'expliquer où toi, aujourd'hui, tu dois trouver ton Moshe. Donc où est-ce que nous allons trouver nos Moshe? C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire rentrer dans les mots, dans le secret des mots. Donc lorsque tu trouves Hashem, tu trouves Moshe. Il a été sauvé des eaux. Donc tu l'as libéré de l'eau dans laquelle il était coincé. C'est-à-dire tu libères Moshe de ton propre texte que tu es en train d'étudier dans la Gemara, dans la Mishnah ou dans le Zohar. Et donc tu deviens de plus en plus clair dans ta manière de véhiculer le divin à travers toi. On est d'accord ? Puisque Moshe c'est le prophète par excellence. Donc c'est le prophète parfait, donc c'est celui qui véhicule la parole de Dieu d'une manière parfaite. Or ce même Moshe, pour répondre un petit peu à ta question de tout à l'heure, nous dit clairement dans le livre de Dvarim, « Rav lachem shevet bahar azé ». Ça suffit de rester en exil. « Pnu us'u lachem ». Et si ce n'est pas assez clair, Akadosh Baruch Hu intervient durant l'histoire aux sages d'Israël pour leur dire que le moment est arrivé de rentrer à la maison. En l'occurrence, dans le groupement de tous les grands d'Israël, il y a 450 ans de là, pendant la nuit de Shavuot, où Rabbi Yosef Karo est installé avec tous les grands de la génération, et à côté de lui se trouve le Shla HaKadosh, qui sont des summums, des sommets du judaïsme, et la voix de Dieu, de la Shrina, rentre dans la gorge et parle à travers lui, à toute l'assemblée qui se trouve. Donc l'assemblée s'évanouit de peur, et la voix leur dit, demain, je veux que vous me rameniez des élèves. Je veux que vous soyez plus nombreux. Quand le lendemain, ils se regroupent autour de cette étude, la même voix pénètre dans la gorge et commence à dire des paroles, Et il dit, je veux aussi le surlendemain, vous allez demain soir, demain je dois vous faire une annonce très importante. Et le surlendemain, donc le troisième soir, la troisième nuit, il y a beaucoup beaucoup de personnes, et la Shrina dit, il est temps de rentrer à la maison, rentrer en Israël. Okay? Donc les gens qui ne connaissent pas cette histoire, ou qui font semblant de ne pas la connaître, okay, exprès peut-être, okay, il y a un problème. Ça veut dire que les grands d'Israël, les poskei halakha, les poskei hador, Rabbi Yosef Karo a reçu par Nevoa, okay, clairement que le temps de l'exil est terminé et qu'il faut commencer à rentrer 450 ans, l'apparition du Harizal, donc le renouvellement de la Kabbalah, donc le renouvellement de la prophétie. La Kabbalah étant la prophétie moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez les prophètes, ce sont les kabbalistes. D'ailleurs, les prophètes étaient des kabbalistes. Avant de recevoir la prophétie, il fallait étudier la Kabbalah. Ce que vous allez devoir faire vous aussi un jour dans votre vie, Be'ezrat Hashem. Donc, Dvar Hashem, donc encore une fois, la parole divine, Zo Nevoa, c'est le fait d'être prophète, donc de prophétiser, donc d'être un canal par lequel Dieu s'adresse au monde. Mais pour être prophète, il faut être riche. Il faut être un homme heureux. Il faut être un homme intelligent. Tout ceci ne peut pas se réaliser si tu n'as pas ces éléments-là. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans un état de tristesse, d'angoisse, de mélancolie, ne peut pas être prophète. Ne peut même pas prier. D'ailleurs, la prière est très proche et très voisine de la prophétie, à tel point que pour prier réellement, on doit être prophète. Karov me'od le madrigat nevoa. C'est pour ça que ceux véritablement qui peuvent prier doivent être des prophètes. Yaakov Avinu, par exemple, lorsque Yosef, son fils, a disparu pendant 22 ans, n'a pas prié. La prochaine fois qu'il fait Kriyat Shema, c'est quand il voit Yosef. Donc ça fait 22 ans qu'il n'a pas fait Kriyat Shema. Pourquoi ? Il est incapable de vivre ce qu'il est en train de dire. Il ne s'agit pas de faire des mouvements comme ça pendant ta Amida. Et de regarder l'heure... Et les mecs à côté te gratter l'oreille. C'est pas ça, Ken Yaakov, c'est pas du cinéma. Yaakov, il est dans le mot qu'il est en train de dire. Et les mouvements, Ken, peuvent te rendre abruti, Ken, plutôt qu'autre chose. Donc arrête de jouer à un cinéma, fais ta tefila comme il faut, Ken, et ne crois pas que ceux qui bougent le plus, ce sont ceux qui prient le plus. Ken? Des fois, tu peux même te décoller le cerveau. Okay? Donc, faites attention. D'ailleurs, les kabbalistes ne bougent pas pendant l'Amida. Parce que leur monde intérieur est tellement dans un mouvement que leur monde superficiel extérieur est figé. Ça, c'est au niveau de la chassidoute. Zenachon. Je te permets de bouger. Bon. À condition que tu sois dans les mots que tu dis. C'est tous les élèves du Gaon de Vilna. Les élèves du Gaon de Vilna. Quel? La quoi? Si ça t'améliore la Kavana, bouge. Mais si c'est juste pour faire des gestes, okay. Fais attention là où tu es. C'est-à-dire, tu ne dois pas te déguiser. Sois toi-même. Si c'est comme ça que tu as la plus de Kavana, fais-le. C'est tout. Mais ne fais pas parce que tu as vu que... Donc apparemment, ils sont tous sérieux, et moi, je suis là, je suis un bidon. Hein. Tu vas dans une synagogue, ils sont tous comme ça, et toi, tu es comme ça, et tu te dis, peut-être je suis un naze. Okay? Déjà, le fait que tu penses que tu es un naze pendant la Hamida, tu es déjà sorti de la Kavana de la Hamida. Donc, il y a un problème. Okay? Tu fermes les yeux si tu connais la Hamida par cœur, mais si tu ne la connais pas, tu dois regarder ton texte. Sinon, qu'est-ce que tu fais avec les yeux fermés? J'attends que ça se passe. Okay? Ceux qui ferment les yeux, ça s'appelle des mumchim. Mumchim. C'est-à-dire des spécialistes, c'est-à-dire ceux qui voient les lettres pendant qu'ils les disent dans leur verbe intérieur. Non, il ne suffit pas de dire les lettres, il faut les voir, comme si tu lisais dans ton sidour, mais avec les yeux fermés. Et si possible, blanc sur fond noir, c'est-à-dire en forme de feu sur fond noir. Alors imagine-toi le travail qu'il faut faire pour fournir tout ça. À chaque fois que tu vois le nom de Dieu, tu dois penser à Yud, Ke, Vav, Ke, avec le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud dedans, et la composition des deux, Yud de Yud, Ke, Vav, Ke, Aleph de Adnout, He de Yud, Ke, Vav, Ke, Dalet de Adnout, et ainsi de suite, la combinaison. Chaque prière, et tu dois savoir quelle est la ponctuation de chaque bracha, parce que quand tu dis Rofe Cholim, c'est dans une sphère qui s'appelle Tiferet, et quand tu dis par exemple Matzmiach Keren Yeshua, c'est dans Netzach. Et donc tu ne peux pas prier si tu ne connais pas tout ça. Donc ça ne sert à rien de fermer les yeux. Il faut être spécialiste pour te concentrer. Maintenant, si ça t'aide au niveau où tu es, bah, ouf, ferme les yeux. Mais c'est comme ça qu'il faut être. C'est bien. Si tu arrives, si c'est comme ça que ça marche chez toi, fais-le. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun a la souplesse. Kadosh Baruch Hu te donne la souplesse de faire les choses par rapport à ton individualité. Si c'est comme ça que tu vis, si c'est comme ça que tu vibres, alors continue à vibrer.
Là, c'est chacun de, normalement, chacun devrait fermer les yeux. C'est ça, quand quelqu'un a les yeux ouverts, à part s'il arrête de concentrer, mais les yeux ouverts, il commence à regarder à droite, à gauche, tout ça. Il y a toujours après ça faciliter
non. La... Non, sache qu'il y a des gens qui dorment avec les yeux ouverts et qui rêvent avec les yeux ouverts. Ce sont des hommes qui ont des neshamot d'un autre degré. Donc il y a des gens qui regardent avec les yeux, mais qui ne voient pas ce qu'il y a dehors. Ce n'est pas évident. Ce sont encore des degrés. Il y a beaucoup de choses. Il y a à boire et à manger. Tout existe. Maintenant, soyez vous-même et réalisez-vous vous-même avec vos capacités et ce qui vous fait vibrer. Si c'est ce qui te fait vibrer, fais-le. Au contraire, tu dois le faire. C'est là, bien fait. Donc tu dois devenir certain dans la vadaout, dans la certitude de ce que tu fais. C'est comme ça qu'il faut avancer dans le judaïsme. Jusqu'au moment où ta shita, ta manière d'appréhender Akadosh Baruch Hu dans ce monde, elle est tellement claire qu'il n'y a plus rien qui te déstabilise. Chacun va venir, tu dis, ouais, vas-y, lui, Ali.
Non, c'est comme ça. Le truc, c'est qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, instruites, qui comprennent. Parce que nous, c'est sûr qu'on cette personne, on regarde la Torah.
Quel?
Maintenant, je sais que la façon dont une personne la regarde, je sais qu'elle est déjà beaucoup plus construite, beaucoup plus... Instruit.
Tu es sûr que c'est dans l'instruction et dans la...
Non, justement, c'est plus dans l'instruction, mais ça veut dire...
C'est dans le vécu. Elle est ce qu'elle étudie. Je dois devenir mon étude.
Je deviens mon étude.
C'est pas une information, l'étude.
Il y a des personnes que, on va dire, que je sais qu'ils quand même ont vécu.
C'est là. Bien fait. C'est pour ça que je te dis, c'est légitime. Je dois discuter avec ces personnes-là en acceptant leur vision des choses. Tu peux toujours approcher quelqu'un.
Et après, on va dire, quand ils parlent, généralement, c'est quand ils mettent des opinions, forcément, c'est la chose.
C'est alors chachou. Tu essaies de mettre en face des références. Il faut une intelligence. C'est comme un commando. Okay. C'est impossible de rentrer dans ce terrain. Eh bien, moi, je t'amène des commandos. Ok. 1, 2, 3, je t'embrouille, ils sont déjà dedans. Bien, tu ne sais même pas comment ils ont fait. Toi, tu te dis, mais ce n'est pas possible, par où il est passé. Il y a des mecs qui sont spécialistes pour ça. Donc, même pour pénétrer l'idée de quelqu'un, il y a des spécialistes pour ça.
Il y a fait.
C'est comme ça qu'on vit. Est-ce que le pouce, il est certain de sa poussée de pouce?
Ça, oui.
Bien fait. Est-ce que ce doigt, il est certain de son doigt? Oui, et pourtant, les deux, ils sont différents. Il y a fait. Donc je peux prendre mon stylo avec les deux. Justement parce que ils sont l'un contre l'autre. Je ne dois pas annuler l'autre. L'oreille n'a jamais annulé l'œil. Heureusement. Le nez n'est jamais sorti en guerre contre un poil de tabac. Chacun a sa place. Et si une cellule dans mon corps, Chas v'Shalom, refuse une autre cellule dans mon corps où vous jouez son rôle, c'est une catastrophe, c'est la pire des maladies. Donc comment, avec tous ces membres qui sont complètement différents les uns des autres, je peux réaliser mon être? Ce matin, je me suis levé, miracle, avec 613 membres qui se sont levés en même temps. Il n'y a pas un qui m'a dit, moi je reste au lit, allez-y. Imaginez-vous que tout le monde se lève, l'oreille te dit, écoute, je suis crevé, moi hier j'ai trop entendu de choses. Je suis fatigué d'entendre tout ça, moi je reste. Moi, tu dis, bon, ma chère oreille, okay, j'ai une heure et demie de tefila, okay, pour l'instant, tiens un truc, comme Fantomas, okay, et après, tu reviens à la maison, tu dis, bon, ça va, tu as bien dormi? Oui, oui, je suis dans l'oreiller. Okay. Tac, tu la colles. Ça n'existe pas. À chaque fois que tu avances, c'est tout entier que tu avances. Sinon, tu es dans la dispersion totale. Okay. C'est ça la différence entre l'unité, okay, l'un, néo, one, et la multiplicité des Mr. Smith. C'est toujours les mêmes avec des lunettes de soleil, et ils se créent des millions. Okay. Le 1, il est contre les millions. C'est la même chose. Si tu arrives à vivre dans l'unité, eh bien tu sauves Zion. C'est tout. Vous avez compris? Donc tu retrouves la matrice. Tov, juste au moment où on te met les tefilines de la tête, c'est là où on te rentre le jack. Putain, le trou, il est là. On le fait tous les jours. Donc ne t'inquiète pas, même ceux qui ne vont pas à la yeshiva, ils étudient d'une autre manière. Donc, la Torah est en train de rentrer de partout. C'est pour te prouver qu'on peut accéder là où toi tu crois que c'est impossible. C'est-à-dire, il y a parfois un élève que je ne pourrais pas l'avoir ici à la yeshiva, donc je vais l'inviter à voir un film. Et le film va lui donner une certaine ouverture, et là-bas, comme ça ne parle pas de Torah, apparemment, ils ne se sent pas menacé. Il me dit, oh là là, quel kiff, mais on peut, c'est un monde parallèle. Et tu dis, oui, oui, ça s'appelle Olam Haba, c'est le monde parallèle. Là-bas, le temps n'existe pas, donc tu peux apprendre plein de choses. On n'a rien de temps ici, le temps ne passe pas, là-bas, le temps. Il commence à comprendre des notions qu'il était impossible de comprendre il y a 200 ans. Et aujourd'hui, on peut les comprendre. Extraordinaire. Okay. Un portable. Skype. Okay. Extraordinaire. Tu te balades, tu parles à un autre, il est à 5000 km. C'est de la sorcellerie. Si ton arrière-grand-mère, elle se lève, elle te gifle. Et tu es un sorcier. Tu es devenu sorcier, mon fils. Il joue avec les choses de Dieu. Ok ? Eh bien, ça existe. Ça veut dire que la technologie aujourd'hui nous permet de comprendre des notions de Torah. C'est pour ça que nous sommes très proches, okay, de la réalisation, en fait, divine sur Terre. C'est-à-dire que la science est arrivée très très loin. Et c'est en même temps que la Torah, donc on peut aujourd'hui, okay, on peut aujourd'hui, c'est dangereux pour l'instant au niveau de la science parce qu'on enseigne ça à n'importe qui. Donc un terroriste peut rentrer à l'université sans aucun problème. Et on peut lui enseigner la chimie et l'électricité et la science de mathématiques et dans tous les degrés. Et il sort de là-bas avec un certificat de fabricant de bombes. L'ingénieur. Parce qu'il n'y a pas de critères de sélection à l'entrée de l'université. Dans la Torah, c'est interdit. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un élève qui n'est pas hagoun. C'est-à-dire, si je décèle chez l'un de vous quelque chose de pas bon, je dois aller voir le Rav Partouche et la personne en question et lui dire, écoute, tu ne peux pas rentrer dans mon cours. Je ne veux pas que tu viennes dans mon cours. Parce que c'est dangereux pour toi. C'est pas bien que tu viennes. Il faut que tu arranges certaines données de ta vie pour arriver à ce cours-là. Si par mégarde il est rentré dans ce cours et que ce cours ne lui correspond pas, alors il y a un système divin qui endort la personne en question. Donc il va faire comme ça. Et pendant le cours, tu vas le voir tomber. Et en réalité, c'est un système divin qui lui dit « Dors, bébé, dors, l'enfant d'eau, okay, tu te reviendras bientôt, tu dormiras, machin, c'est pas pour toi pour l'instant, donc Akadosh Baruch Hu te fait un court-circuit au niveau du cerveau pour te court-circuiter pendant ce cours-là. » Donc toi, tu as l'impression que tu es fatigué, mais tu n'es pas fatigué. Tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu te protège de cette lumière qui est trop forte pour tes ustensiles, pour ne pas que tu exploses. Okay. Hagoul ? Hagoun, hagoun. Hagoun, ça veut dire correct. Correct, ça veut dire qu'il a des bonnes midotes. Ça veut dire qu'il comprend que le peuple d'Israël est une nation, que je dois protéger ma nation, qu'il y a des idées de base qui sont claires chez lui, que je dois me battre s'il le faut pour protéger mon peuple, ma terre. et ainsi de suite. Celui qui te dit, moi j'en ai rien à faire du peuple d'Israël, moi l'essentiel c'est que j'étudie la Torah, arrêtez de m'embrouiller avec tout vos inanim, celui-ci, il faut le jeter de la yeshiva. Et lui dire d'aller étudier le moussard à l'extérieur, okay, et après de revenir. Gentiment, ok? Si, si. Bon. Il faut savoir aussi, ça aussi, comment le dire. Ça aussi, il faut savoir. C'est-à-dire, toi, si tu peux à l'extérieur l'attraper, dans un autre contexte, eh bien, tu peux faire un travail avec lui, autre que celui de l'étude pendant la yeshiva. Toda Rabba.